Françoise Tressard et la belle équipe en piste pour la récré littéraire. À l'affiche, joli dimanche et tourisme minimal. Et puis, le droit de réponse, Patrice Minet et Dominique Muller, pour le point de vue du crâne dans Hamlet.
Un fou, un névrosé, un velléitaire indécis. Venger papa, aimer Ophélie, être, ne pas être. Entre nous, si quelqu'un devait déclamer « To be or not to be », c'est moi.
Ensuite, la textée d'Eva Almassy. Pour Jean-Bernard Puy et Lucas Fournier, la récré dans la récré, avec le jeu des suppositions. Et puis, place au périphraseur, Hervé Letellier pour l'horizon.
Horizon.
Oui.
Parabole de l'inaccessible netteté pour les myopes.
Oui, évidemment.
Ah, je peux en témoigner. Oui. Personnellement, je n'ai jamais vu l'horizon de ma vie. Donc, on m'a dit qu'il existait, je veux bien le croire.
Ah d'accord, tout s'explique.
Voilà.
Nous nous quitterons sur un joli dimanche de Gérard Mandiga. Il sera 13h58. Un numéro des Papous dans la tête à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter pendant 1000 jours. Merci de votre fidélité à nos dimanches Papous. Bienvenue à ceux qui nous découvrent. Le joli dimanche, c'est un jour qui nous réunit depuis 30 ans. Un jour à célébrer en pastiche avec Dominique Muller. Le dimanche serait la promesse du samedi. Le sombre dimanche de Racine, Dominique.
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Enfin le beau dimanche, en ma nuit éperdue, des voilas sont levées à ma douce tendresse. Et à la fin du jour, je découvris l'ivresse. Cela fait trop longtemps, Seigneur, que je l'attends, uni à mon sommeil, mon lendemain ardent, celui dont l'aube claire, hélas, sans un regard, me chasse à l'horizon, dans le désordre hagard, où j'espère ou mourir ou rougir de ses feux. Mais dédaigné je n'ai pour pleurer que mes yeux. Sans repos, samedi, songe à dimanche, il fuit. Ce fut pendant l'horreur de ma profonde nuit. Sa clarté d'oriental devant moi s'est montrée, comme un astre levant pompeusement paré. Sa fraîcheur n'avait point cette figure lasse que l'on voit aux journées quand la semaine passe. J'avois pris soin de peindre et d'orner mon visage, des heures réparant l'irréparable outrage. « Va-t'en, m'a-t-il maudit, Saturday Night Fever. Le dimanche matin repousse tes faveurs. Sa lumière de moi a paru se lasser, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange de canettes meurtries, de mégots dans la fange, des danseurs indécents et des digets affreux que des vins dévorants se disputaient entre eux. » Je le vis, je rougis, je pâlis, j'ai trop bu, car jamais le dimanche ne vint, c'est fichu. Samedi, noir rebut de la semaine entière, tes espoirs de demain, laisse-les au vestiaire.
L'automne est peu propice au voyage. Pluie, vent, brouillard, un chat dans la gorge. Alors on reste au chaud chez soi. On explore son petit périmètre, comme dans « Voyage autour de ma chambre », ce qui n'exclut pas l'aventure. Hervé Letellier nous raconte, à la Jules Verne, son expérience de tourisme minimal et initiatique chez lui. Chez Jules Verne, explorateur et souvent accompagné d'un disciple ou d'un neveu, Hervé Letellier lui tourne autour de son salon en compagnie de son fils. Et ils seront rejoints par Odile Conseil et Jacques Jouet. Le tourisme à minima selon Hervé Letellier.
Elle est où ? Elle est où ? La voix de mon fils était angoissée. Et j'ai compris de quoi il parlait. Et j'ai compris qu'il fallait partir. Partir. Pour la retrouver, elle. La télécommande. Elle est où ? Le match commence dans 5 minutes. Il faut y aller, fils, lui dis-je. Et parce que je ne conçois pas de rater une occasion de nous élever au-dessus du commun, je lui rappelais que, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant... Oui, bon, papa, ça va, me dit mon fils, ça va, on a juste perdu la télécommande, je suis prêt, on y va. C'était vrai, nous étions prêts. J'avais poussé la lumière des variateurs au maximum, presque déjà au-delà du raisonnable, afin que notre visibilité soit maximale. La puissance était telle qu'il nous fallait porter des lunettes noires, mais la télécommande ne pouvait pas nous échapper. De là où nous nous tenions, nous pouvions embrasser du regard le canapé rouge, les deux fauteuils de cuir défoncés, et au loin, près de la ligne déjà brumeuse de l'extrémité du tapis, les deux poufs écrasés qui, les jours de grande chaleur, nous servent de repose-pieds. Tout semblait calme. Trop calme, dirais-je, d'un calme trompeur, comme on lit dans les romans. Car nous connaissions bien cette télécommande et ses habitudes. Elle est petite, trapue, noire avec un trait d'aluminium, et sournoise et cruelle, comme le sont parfois les télécommandes japonaises de seconde génération. « Je prends le canapé, dis-je à mon fils. Toi, prends le fauteuil. Les coussins sont moins profonds. » Mon fils ne fut pas dupe de cette dernière phrase. Il se tourna vers moi en silence. L'inquiétude se lisait dans son regard. Oui, certains, flanqués d'une famille nombreuse, auraient sans doute pris une autre décision, plus lâche, confier le canapé au cadet chétif mal nourri, une bouche inutile. Mais moi, je n'ai qu'un enfant. Celui qui transmettra peut-être un jour mon nom, c'est à moi de prendre les risques. C'est pourquoi je me sacrifiais et me dirigeais sans trembler vers le canapé. Un œil peut s'agace. Ce dernier peut sembler banal. C'est un sofa confortable trois places que j'ai commandé à partir d'un catalogue au nom inquiétant, mais qui ne m'a pas fait reculer. Il est en velours rouge. Rouge théâtre, et la légende veut que ses coussins soient déhoussables. Il est déjà arrivé autrefois que la télécommande se glisse entre deux coussins. C'est l'hypothèse la plus probable. Il en est cependant une autre. Elle pourrait s'être glissée sous un coussin d'assise. Il faudrait alors glisser la main profondément sous l'étoffe. On atteint alors une zone sauvage où les miettes de différents repas sont allées mourir avec des tickets de métro et tout ce qui peut choir d'une poche. Clé USB, clé de voiture. Une femme de ménage qui vient le vendredi refuse de manière catégorique de s'y aventurer. Je l'ai même surprise une fois à se signer furtivement. Elle y enfonce l'aspirateur avec terreur et dégoût en psalmodiant des incantations dans une langue latine dont j'ignore tout, espérant certainement par là chasser les démons. Je commençais par remonter sur le côté gauche vers l'arrière. Sans quitter le canapé du regard, je criai à mon fils « As-tu exploré le dernier fauteuil ?»« C'est pas la peine de crier, » répondit-il, « je suis juste derrière toi. »« Oui, oui, je regardais, elle n'est pas là, je regardais dans l'autre. » »« Courageux garçon, les chats ne font pas des chiens. » »« Ou les chiens ne font pas des chats. » »« Ce n'est pas grave, c'est mon fils. » Je fis avec la main gauche le tour du canapé, fouillant entre les coussins et le dossier, rien. J'allais me résoudre à fouiller sous le canapé, quand un cri jaillit de sa bouche. « Mais qu'on est bête, elle est là !» C'est vrai, je tournais la tête. La télécommande japonaise était posée devant l'écran. Elle était paisible comme un lion après le repas. Mon fils s'appuya aussitôt sur ses touches et je constatais avec plaisir que les piles fonctionnaient encore. Je pus alors me tourner vers ma progéniture, l'œil clair, et lui rappeler cette loi. « Si tu peux retrouver très vite la zapette pour regarder le match PSG Menton, si tu peux conserver ton courage et ta tête, alors tu seras un homme, fiston. »
Oh, quelle belle relation père-fils.
C'est beau.
Moi, c'est ce qui me frappe.
On a des aventures comme ça.
Ah oui.
La dernière fois, on avait perdu une poêle à tarte.
C'est un petit tourisme minimal d'une demi-heure, trois quarts d'heure, non, je suppose, mais ça aère bien la tête.
Ça dépend où se trouve la télécommande, mais ça peut durer très longtemps.
Oui, mais vous diriez entre 13 minutes et
3 heures.
Et
8
jours.
Ah,
et 8 jours. Ah oui, alors là, c'est un tête-à-tête père-fils qui est peut-être un peu long. Enfin, on doit se dire beaucoup de choses. Odile Conseil, vous habitez chez Hervé, vous le connaissez,
oui.
C'est un copain, c'est quoi?
Non.
C'est qui? Non, c'est pas un copain.
Je suis canapé, rouge.
Ah.
Depuis que je suis chez eux, ma vie est un enfer. Aucun égard, mais alors aucun égard pour moi qui pourtant apportait confort et couleur dans leur salon. Le môme d'abord, et que je te régurgite, et que je t'envoie valdinguer la compote, poire, pêche, cassis, banane, fruit de la passion. Maintenant qu'il est ado, il me brutalise moins. C'est le genre avachi, vous voyez, qui mange de la pizza et des biscuits apéro en regardant la télé. Mais alors là, bonjour les miettes qui grattent. Et puis le père. Ah, il y en a vraiment à dire sur le père. Sur toutes les créatures qu'il a renversées sur mes coussins.
Ah, voilà.
Mais
c'est
je
facile.
N'étais pas consentant,
c'est
moi.
C'est facile.
Le canapé est jaloux. Oui.
Et il a grossi ces derniers temps. Il devient lourd, mais d'un lourd. En plus, comme il s'assied toujours du même côté, je commence à être totalement défoncée. Mais la pire, c'est celle qu'ils appellent femme de ménage. Torsionnaire en chef conviendrait mieux. Elle m'introduit sauvagement des objets contondants entre les coussins et elle trifouille et elle insiste. C'est comme remuer le couteau dans la plaie, mais en pire. Mais justement, la voilà. Au secours.
moi, je vous prenais pour un type plutôt délicat, Hervé.
En fait, je ne me suis pas rendu compte à quel point le rapport que j'avais avec mon canapé était un rapport désinvesti et sans intention. Mais dès que je rentre chez moi, je vais essayer de rétablir des liens. Voilà.
Dites-lui, je t'aime.
Oui, je vais peut-être le déhousser un petit peu, si vous voulez bien. Je vais tailler les coussins.
Jacques Jouet, vous êtes qui dans cette histoire?
Je suis le match PSG Menton.
Oh, 0-0, non?
J'attends. Ça fait 8 jours que je suis reporté à cause de cette famille lambda qui a perdu sa télécommande. C'est pas des flèches, ces deux-là, je peux vous dire. 8 jours de retard pour un match, c'est terrible. Et les 11 joueurs de Menton qui sont à Paris, à passer leur temps aux Folies Bergères ou au Crazy Horse. Et les joueurs du PSG, il n'y en a pas un qui a accepté de rester au Parc des Princes. Même qu'ils sont bien logés normalement, je t'en fous, ils sont retournés dans leur famille. Alors ça y est, ils l'ont retrouvé leur télécommande de chez Zapet. Bravo. Seulement nous, on n'est pas prêts. On a un ballon et un arbitre, mais on n'a pas de joueur. Vous pouvez la recacher, votre Zapet.
Quel dépit.
Oui, mais quand on y pense, si on pouvait perdre sa Zapet pour retarder des guerres, des catastrophes, ça serait pas mal, hein, finalement.
Formidable.
Je dois dire que la télécommande, quand même, c'est une magnifique métaphore de la vie. Je vous rappelle cette phrase de Pierre Légaré. Quand les piles sont mortes, on appuie toujours plus fort sur la télécommande. Et ça, c'est quand même assez vrai.
Tu penses, Serge?
Je pense que le 30 novembre, c'est les 30 ans des Papous.
Oui.
Et je me dis que 30 ans, c'est jeune. Très jeune, très jeune.
Et oui, 30 ans. Et pour notre anniversaire, ce sera la fête en public. Dimanche 30 novembre, dimanche prochain, toute la journée à la Maison de la Radio, avec tous les Papous. Dominique, Serge, Hervé, Lucas, Violaine, les Patrice, les Jacques, Eva, Odile, Patrick, Jeanne, Jérôme, Nelly, Gérard, Ricardo, Jean-Bernard, Gabriel et ses copines les Sardines, Claire, Marianne, Babette qui chanteront Traînait, et l'ami Pablo Bandoneon et un invité surprise, chut. Et nous jouerons à nos jeux papous, en prose, en rime, en chanson, et le DLA bien sûr, et Expert Faussaire aussi, pour 2 enregistrements publics auxquels vous êtes tous invités, la récré du matin de 11h à 13h avec l'invité surprise, la récré de l'après-midi de 15h à 17h avec la surprise de l'après-midi, Ricardo Mosner qui aura peint le tableau géant des 30 ans toute la journée en public et en musique, dans l'agora de la Maison de la Radio, vous allez découvrir, le découpera sur scène en 30 petits formats qu'il offrira aux 30 gagnants de notre tombola gratuite. Et tout ça, c'est quand? Eh bien, c'est le dimanche 30 novembre à la Maison de la Radio, dimanche prochain, pour les 30 ans de nos papous dans la tête. Ouverture des portes du studio 104, 45 minutes avant le début de chaque récré. Tous les renseignements sur l'agenda de France Culture, la page vie du Club des Papous et sur notre page Facebook. Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais il y en a 850 des places. Et vous réservez sur le site maisondelaradio.fr. Tout attaché en minuscule maisondelaradio.fr. Et pour ceux qui n'auraient pas tout noté, on en reparle tout à l'heure. Et c'est le moment de donner la parole à un personnage de fiction. Pas à l'aise dans son rôle, pas heureux, son auteur lui impose une certaine vie dans l'histoire et lui rêve d'autre chose. Il réclame un peu de gloire, un peu d'amour, des aventures trépidantes. Et nous lui offrons de s'adresser directement à son créateur. Le personnage de fiction, c'est vous qui le représentez, Dominique Muller. Qui êtes-vous?
Je suis le crâne tendu par Hamlet.
Ah, je le voyais moins joli, quand même.
C'est un personnage très important.
Très joli, oui, très élégant, ce crâne.
Tout le monde le connaît.
Oui.
Et j'écris à William Shakespeare, Église de la Sainte Trinité à Stratford-upon-Avon. My Lord, comme on dit au théâtre, ou crâne d'œuf, comme on dit au cimetière d'Elseneur, ou comme il vous plaira. Les siècles passent et l'eau de la Baltique a coulé sous les murailles d'Elseneur, mais j'ai assez entendu Hamlet pour savoir que les spectres bavards post-mortem ne vous font pas peur. C'est pourquoi j'attends une réponse à la lettre que j'adresse à votre sépulture. D'autres que nous trouveraient ça macabre, mais vous avez l'outre-tombe joyeuse, si j'en juge par la scène bouffonne où j'apparais. Moi aussi, Will, j'aurais l'humeur bouffonne si vous ne m'aviez exhibé sur scène. Alas, poor Yorick. Relisez donc votre propre épitaphe. Mon ami, abstiens-toi de creuser la poussière déposée sur moi, maudit soit celui violant mon ossuaire. Ce qui vaut pour vous ne vaut pas pour moi, si je comprends bien. Mettez-vous un instant à ma place. Je gisais en paix depuis des années, après une vie bien remplie à égayer la cour. Et voilà que votre cerceau, cervela, shit, j'ai un trou de mémoire à croire que j'ai perdu l'esprit. Cervelle, voilà. La vôtre a donc conçu l'idée loufoque de me faire tripoter par les mains d'Hamlet. Un fou, un névrosé, un velléitaire indécis. Venger papa, aimer Ophélie, être, ne pas être. Entre nous, si quelqu'un devait déclamer « to be or not to be », c'est moi. Car la question me résume, suis-je un accessoire, une âme errante, un fantôme? À aucun moment je n'ai voix au chapitre. Avouez qu'il faut avoir le cœur bien accroché, façon de parler, pour ne pas sombrer dans la dépression, contraint d'écouter les fossoyeurs rigoler de mon physique. Evelyn, prends ça dans les dents, poor Yorick. Non, je ne suis pas cette risible coquille vide. Un crâne n'a-t-il pas des yeux, des sens, de l'affection, de la passion? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Et si vous nous bafouez, ne nous vengerons-nous pas? La tirade de Shylock aurait fait merveille dans ma bouche, Will. Oui, mon honneur est chatouillé, mon état bafoué. Mais non, je ne cherche pas vengeance. Elseneur n'est pas Venise. Nous n'avons pas de lit d'eau ou de tiède Adriatique pour nous noyer. Entre nous, Ophélie, dans une mare, c'est mesquin. Mais les crânes danois ne sont pas les abrutis muets que suggère ma scène. Je veux parler, Willy, je veux m'exprimer, je veux être. Let it be, let it be. Vous, dont on a nié l'existence, vous devez savoir ce que j'éprouve à me sentir aussi inutile qu'une merde. Chez nous, on appelle un chat un chat, sans crainte. Oui. Croyez-le ou non, il n'y a rien de pourri au royaume du Danemark. Et surtout pas moi. J'ai les yeux en face des trous, Will. Je vois bien que ma célébrité resplendit sur les scènes et les écrans du monde entier dans les mains des plus grands acteurs. Les yeux dans les yeux, avec la grande Sarah Bernhardt. Si vous saviez comme je me suis mordu les lèvres pour ne pas l'embrasser. Reconnaissez que je m'en suis tenue à mon rôle. Le muet, le bas du front, la vulgaire calebasse. Rien, pas un os à ronger, même pas un soupir. Alas, pauvre de moi. Ça ne peut plus durer, je vais craquer et il aura l'air fin le Hamlet avec son crâne en morceaux. Donc, primo, envoyez-moi au plus vite un monologue bien senti où je jouerai ma vie de bouffon. On rira à s'en décrocher la mâchoire. Ça ne ferait pas de mal à la pièce. Convenez qu'elle n'est pas le sel de votre verve comique. Dozio, j'aimerais intervenir avant l'acte 5. Pourquoi pas à l'acte 1, en ouverture pour mettre les gens dans le bain. Le grain d'Hamlet passerait comme ma lettre à la poste s'il se trimballait avec un crâne avant de papoter avec un spectre.
C'est vrai.
Pour le moment, il y a un os. On voit comme le nez au milieu de la figure que je suis le prétexte à une dissertation niveau bac sur la vie, la mort et tout le bazar. Hamlet, philosophe de l'être et du néant, c'est ça et moi je suis le roi lire. Mon rôle amplifié, la pièce y gagnerait vraiment, faites-moi confiance William. Après tout, je la connais par cœur. Et voir un spectateur quitter la salle dans le film de Monsieur Lubitsch m'a mis la puce à l'oreille. J'ai beaucoup songé les nuits d'été. Hamlet est un cabotin, il fait beaucoup de bruit pour rien. Moi, mesure pour mesure, je répondrai enfin « to be » sans tergiverser. Bien que vous ayez la manie de faire comme il vous plaira, je parie que vous êtes convaincus. Bientôt, ensemble, en coulisses, tel que vous êtes maintenant, vous pourriez être ma doublure, ma foi. Nous pourrons dire « tout est bien qui finit bien ». Votre poor Yorick Skull. N'insistons pas sur la prononciation en VO, x-x, ridiculous. PS, et pas de réplique lourdingue du style « le verre est dans le fruit »,« pas piquer des verres »,« bourrage de crâne »,« boule à zéro »,« yeux en boule de loto » et autres humour faciles, je connais votre péché mignon.
Bah oui, moi je trouve qu'il y a une réplique merveilleuse qu'il suggère, le crâne c'est « hélas, alas, pauvre de moi » qui pourrait servir à plein de rôles et à plein de
oui,
pièces.
Oui, ça marche avec tout.
Ça marche avec beaucoup de choses.
Surtout dans Shakespeare.
Oui.
Dans Fédot aussi.
Dans Fédot, même la biche peut-être.
La biche, on note la biche.
Oh non.
Bon, alors justement, vous qui riez, Patrice Minet,
oui.
Est-ce que vous êtes William Shakespeare? Non.
Et non.
Bah, oui.
Ouais, vous le
je
savez.
Trouvais que vous n'aviez pas tout à fait le physique, mais on peut se tromper, hein, parce qu'on n'a pas vraiment
pas
de photos de Shakespeare,
oui,
évidemment.
Oui, non, il n'y a pas de photos. Êtes... D'ailleurs, je ne suis pas une personne.
Ah bon?
Non. Vous savez, un crâne, ça reste une personne d'une certaine
d'une
façon.
D'une certaine façon, oui.
Mais c'est aussi un accessoire.
Oui.
Et je suis un autre accessoire.
Ah bon, et vous côtoyez le crâne
voilà, nous habitons
dans
la même...
Dans le magasin des accessoires.
Le même placard, si vous préférez.
Ah d'accord, très bien. Il est sympa.
Qui? Le crâne?
Oui.
Un peu géniard.
Il est bavard,
ouais,
non, ouais, mon affiche.
Ce qui nous a semblé, ouais.
Voilà, mon pauvre ami, lui écris-je.
Ah bon, vous auriez pu lui parler
même
directement
si
vous
êtes dans le
placard. Oui, je suis tombé par hasard au rayon des accessoires où j'habite sur ta pitoyable demande. Tu voudrais être du premier acte et je ne sais quoi d'autre. Moi, je désirais un vrai rôle, être Roméo ou Juliette, ou les deux. Et j'en suis réduit à l'emploi de crochet à noble dans le Ubu d'Alfred Jarry.
Ah oui.
Merde.
Oui, quand même. Hein.
Quand même.
Bah oui.
C'est
un
oui,
bon crochet,
quand même.
Quoi.
Oui, c'est important.
Oui.
En coulisses, tous les acteurs se servent de moi pour se gratter le dos. En scène, mon rôle d'accessoire est ridiculisé, bafoué. Je joue à peine, on me laisse tomber, je n'intéresse pas, je rouille peinard. Pauvre crâne vide, tu devrais bénir la chance de n'avoir pas fini dans le bouillon. Regarde derrière toi la statue du commandeur qui a fait ricaner des générations d'élèves et qui sert de perroquet pour que tout le monde accroche chapeaux et manteaux. Et si tu t'ennuies, fais-nous rire en t'affublant du nez de Cyrano qui pend à côté de toi et qui sert parfois quelle déchéance à ce satané Pinocchio. As-tu remarqué que nous ne sommes que des doublures? Autour de toi, quatre autres crânes attendent leur tour d'être choisis pour une représentation. On les a laissés tomber, ils sont fendus, on a joué aux quilles avec, et tu t'en prends à feu Shakespeare qui, lui, a depuis longtemps quitté la pièce. Un auteur qui donne son œuvre abandonne du même coup ses personnages et ses accessoires à la postérité. Mon pauvre crâne, tu n'as rien dedans. Regarde près de la porte, les balais des sorcières de Macbeth se plaignent-ils de faire le ménage entre deux représentations? C'est ça le karma à tête d'os. Dans cette existence, le théâtre, dans la suivante, le train fantôme, etc., etc. Une lente progression vers les premiers rôles et la haute considération qui va avec, les Molières, les Oscars, les Césars, les Quatzars, tout le bazar. Voilà. J'espère que je t'ai bien remonté les bretelles.
Oui, le moral,
mais pas le moral, oui.
Bon courage pour la suite et plus d'araignées dans le plafond. Signé Le Crochet.
Oh, qu'est-ce qu'il en pense, personne. Ah oui, oui. Aucune délicatesse, aucun tact, aucun savoir-vivre. C'est bien un crochet.
Ah, oui, voilà. Il n'est pas feng shui.
Living easy, living free, season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme, there ain't nothing that I'd rather do. Going down, it's party time, and my friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell.
L'autoroute de l'enfer par Icy Dixie.
Ma guarda, sono i papolini nella testa e tutto è su Francesca Cultura.
Mais quel accent, Jean-Bernard! Et si on jouait maintenant avec vous à la textée et avec Éval Massy aussi, Lucas Fournier? Éval Massy a préparé ce qu'on appelle à ce jeu une feuille de route, feuille sur laquelle elle a déposé ses consignes afin de dicter à ses amis papous un court texte, mais avec d'autres mots que ceux de son auteur. La textée n'est pas un jeu scolaire. à Lucas Fournier, à Jean-Bernard Puy de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Évidemment, chacun a sa personnalité, ses idées, son monde. Gageons que les deux textes imaginés, sous-textés, seront différents l'un de l'autre et différents de l'original, avec cependant une certaine parenté. Première partie du jeu de la textée, on écoute la feuille de route d'Eva Almassy.
Donner un titre à rallonge, style quelque chose de quelqu'un quelque part, incluant un élément haut placé et des précisions sociographiques, pour ensuite faire des beaux rimés allègres et légers, A, A, B, B, C, C, etc., plutôt court et simple.
Le travail est mâché, là, hein? A, A, B, B, C, C...
C'est comme ça que je vais dicter pour une fois.
Ah bon?
Oui. A, A. Étonnez-vous en voyant apparaître l'élément haut placé, montrez-le à son avantage, flattez-le, mais comparez-le à un bien bassement terrestre. Finissez sur un point d'exclamation.
Oui. Bébé.
Bébé. Donnez une interprétation de stratégie militaire au son que vous apercevez. Croisez quelqu'un de sexe masculin et donnez son rang, mais dans le civil. C'est très facile.
Une remarque, Jean-Bernard Puy.
Non, mais c'est c'est-à-dire, il y a deux verres.
Oui,
bébé,
oui,
il y a deux verres.
Tout compris.
C'est,
oui.
C'est parce que bébé, oui, oui. C'est une locomotive pour moi. C'est également. Donc,
Ben, vous pouvez parler de locomotive si vous voulez, mais ce sont les rimes. C'est identifier un nouveau son, musical cette fois, émanant d'un instrument ancien, puis émerveillez-vous d'un animal en mouvement qui mérite aussi un point d'exclamation. Je donne même la ponctuation,
oui.
Alors.
Oui, il ne vous reste plus rien à faire.
C'est très précieux. C'est facile. Ce n'est pas un problème, ça.
Dédé. Nouvelle exclamation.
C'est qui, Dédé?
Dédé, oui. Dédé. Nouvelle exclamation devant l'inertie bien naturelle du terrain sociographique présenté dans le titre. Au participe présent, faites entendre un dernier son, virgule, puis... ou comme vous voulez, faites évoluer l'instrument ancien et donnez-lui un comportement plutôt anthropomorphique, puis posez une question vraiment banale. Mais vraiment banale de chez banal.
Oui. Il y a quand même la sociographie,
c'est
l'anthropomorphie.
C'est très facile. Oui. C'est des grands mots pour des petits mots. FF.
On va jusqu'à quelle lettre?
F.
ZZ.
FF. Adressez-vous directement à l'élément haut placé, exprimez votre compassion en pensant à Ovid ou à Trotsky, ou pourquoi pas à l'auteur caché du texte que je vous texte. Point d'exclamation de rigueur. Demandez-vous s'il convient d'utiliser là une formule liturgique. Un petit point d'interrogation et on s'arrête là pour aujourd'hui.
Bon.
Tu as l'air fastoche, hein? Mais... Non, Jean-Bernard, oui.
C'est facile.
C'est quoi la sociographie?
Oui, la sociographie, qu'est-ce que c'est?
C'est un travail sur le terrain. C'est soit en ville, soit pas en ville, soit en groupe, soit pas en groupe.
C'est où vous voulez, comme vous voulez, Lucas.
Chez oui, une peuplade.
Oui.
C'est entre l'ethnographie et la géographie?
Oui.
Satisfait de la réponse?
Non.
Jean-Bernard, une question?
Non.
Servi?
Si, est-ce que je peux m'en aller?
Non. Fini, Jean-Bernard Puy, Lucas Fournier. Vous aurez beau demander encore 5 minutes. Non, il n'en est pas question. Les textés doivent être rédigés. C'est le cas, Jean-Bernard?
Oui, Françoise.
Bon, très bien. Alors, on va reprendre les injonctions d'Eva Almassy qu'elle vous a données à tous les deux, une par une. Et on écoute le résultat.
donner un titre à rallonge, style quelque chose de quelqu'un quelque part, incluant un élément haut placé et des précisions sociographiques.
Alors, ce mot sociographique qui vous faisait un petit peu souci, Lucas Fournier, vous en êtes quand même dépatouillé, oui.
J'en suis dépatouillé.
Bon, alors ça donne quoi ?
Le récit d'un petit Marseillais voyant la tour Eiffel depuis un bateau mouche.
Oh,
parfait.
Ah oui, puis c'est joli en plus.
Oui, c'est un
ah,
titre
c'est
à rallonge.
Joli et oui, et oui. J'attends la suite, c'est très intriguant.
Oui, on va quand même écouter Jean-Bernard Pouille, hein, qui sera sûrement ouais, dans un autre genre. Mais...
Je suis venu pour ça. Dieu visite enfin Saint-Pierre de Rome.
Ah, bon. Ah oui, c'est aussi bien, je dirais.
Ah, ça, c'est... Ouh là là. C'est ouais. Très, très prometteur.
Une sociographie bien digérée, en tout cas.
Oui.
Après.
Ah ah, étonnez-vous en voyant apparaître l'élément haut placé, montrez-le à son avantage, flattez-le, mais comparez-le à un bien bassement terrestre. Et finissez sur un point d'exclamation.
Alors, est-ce qu'on entendra le point d'exclamation, Lucas ?
Oui.
Bien, il le rajoute.
Ô coquine de sort, qu'elle est belle et tout en fer, un parapluie géant planté tout à l'envers.
Oh, ben
ah,
oui,
oh c'est là beau. Là, c'est, oh, c'est, il surpasse, je crois, l'original.
C'est vrai ? On oui. Voit les yeux émerveillés du petit Marseillais, là, oui. Ah, devant la vois. Tour Eiffel.
Je le vois, je le vois.
Et c'est à vous, Jean-Bernard Pouille, étonnez-nous.
Dieu avait mis son habit blanc et vert, mais ne ressemblait qu'à un vieux camembert.
Ah bon ?
On a les mêmes rimes.
Oui, oui. Les deux sont aussi proches de l'original ou...
Ah ben, camembert, oui, mais c'est par la forme, vous verrez.
Par la forme du camembert ?
Absolument.
Bon.
Totalement, après. Même la couleur.
Bébé.
Bébé, donnez une interprétation de stratégie militaire au son que vous apercevez. Croisez quelqu'un du sexe masculin et donnez son rang, mais dans le civil.
Ah, c'est pas facile, ça.
Si.
Si, Lucas.
Une sirène crie sur mon joli bateau. Voici le capitaine préparant un assaut.
Bah, oulala, que c'est proche, 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 enfin proche, exactement opposé. Mais
oui.
C'est-à-dire proche, puisque c'est la même logique.
D'accord.
D'accord.
Et Dieu dans tout ça, Jean-Bernard Pouille. Alors,
il allait en fanfare visiter le Vatican, cherchant un cardinal dévoué et clinquant.
Ah là là, j'aime énormément, énormément.
C'est
identifier un nouveau son musical cette fois, émanant d'un instrument ancien, puis émerveillez-vous d'un animal en mouvement qui mérite aussi un point d'exclamation. Rajoutez, rajoutez, vite fait, Lucas.
Lucas Fournier.
Vers les quais, on entend les pianos à bretelles et un grand cormoran s'envole à tire-d'aile.
Oh là là là.
Non, puis la rime est d'une richesse.
Ah oui.
Bon, on est au Vatican, on cherche un cardinal. Et qu'est-ce qui se passe après, Jean-Bernard ?
Il entendit un serpent mugir dans un couloir. Mais c'était une lionne ou bien un léopard. Le serpent, vous savez, c'est cette espèce de grande trompe baroque.
Ah.
Un instrument ancien qui fait un bruit épouvantable.
Ça fait quoi comme genre ?
Oh, ben je vais pas le faire, j'ai cassé un micro.
Ah ouais, c'est pas terrible.
Mais sont beaux ces poèmes, à la fois visuels et sonores. Nouvelle exclamation devant l'inertie bien naturelle du terrain sociographique présenté dans le titre. Au participe présent, faites entendre un dernier son. Virgule.
Il n'avance pas vite, notre grand bateau mouche, ronronnant. Tout à coup, on s'affole, un bruit louche.
Que faisaient ces félins dans cette cathédrale ? Continuant son chemin, des pieds claquant les dalles.
Ah oh là là, trop trop
et
beau.
Et donc après la virgule, qu'est-ce oh qui se passe ? Injonction ?
Faites évoluer l'instrument ancien et donnez-lui un comportement plutôt anthropomorphique. Puis posez une question vraiment banale.
Lucas.
C'est l'accordéoniste qui s'est fichu à l'eau. Vous croyez que ça flotte ? Ou il faut un canot ?
Oh, j'adore.
Ah, il y a du style, Jean-Bernard.
Il trouva le serpent manié par un gros Suisse Que faisait ce soldat avec cet appendice?
Ah oui, là, c'est étrange.
Ah, ça, c'est une question banale. FF, adressez-vous directement à l'élément haut placé, exprimez votre compassion en pensant à Ovid ou à Trotsky, ou pourquoi pas à l'auteur caché du texte que je vous texte, enfin, si vous le subodorez. Point d'exclamation de rigueur. Demandez-vous s'il convient d'utiliser là une formule liturgique, un petit point d'interrogation et on s'arrête là pour aujourd'hui.
Je me demande comment vous allez placer une légère ambiance Trotsky dans votre histoire, Lucas Fournier. C'est la question. Hein.
C'est pas gagné encore. Tour Eiffel à tes pieds, un homme en vain s'agite et tu restes immobile. La messe est-elle dite ?
Ah là 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 là. Trop
et est-ce
bien.
Qu'elle est dite chez vous, la messe, Jean-Bernard? Oui, parce que c'est le lieu, quand même.
J'ai rajouté un verre parce que j'ai cru qu'il fallait en faire trois, là.
Ah bon? Mais c'est pas grave.
C'est pas grave.
Ah ben... La générosité.
Ah, oui. Oui, toi, Dieu, qui pourtant connaît tout et qui sait par avance que tu n'es pas tout fou, ne serais-tu présent partout en toutes choses?
Oh, c'est magnifique.
Magnifique.
Hein. Et vous avez fait ça en une petite demi-heure à
oui,
peine.
Oui, oui, oui.
On réécoute en totalité, sans interrompre, Lucas Fournier.
Et avec l'accent quand même, oui.
Ah bah oui.
Le récit d'un petit Marseillais voyant la tour Eiffel depuis un bateau-mouche. Oh, coquin de sort, quelle est belle et tout en fer. Un parapluie géant planté tout à l'envers. Une sirène crie sur mon joli bateau. Voici le capitaine préparant un assaut. Vers le quai, on entend les pianos à bretelles et un grand cormoran s'envole à tire-d'aile. Il n'avance pas vite, notre grand bateau-mouche ronronnant. Tout à coup, on s'affole. Un bruit louche, c'est l'accordéoniste qui s'est fichu à l'eau. Vous croyez que ça flotte ou faut-il un canot? Tour Eiffel à tes pieds, un homme en vain s'agite et tu restes immobile? La messe est-elle dite ?
Oh, bravo, wow. Bravo. Wow. Très, très joli. On a envie de lire les 300 autres pages, oui. Parce que c'est un début. Hein.
Ah
vous
bah
le
oui,
sentez c'est... comme un début, Lucas.
Ah oui, là, il faut que le bateau-mouche fasse toutes les
stations du bateau-mouche.
Oui, d'ailleurs, même en cela, il a pressenti que mon poème continuait derrière.
Ah,
je n'ai pas tout texté.
Oui, parce qu'on s'est arrêté donc, à F. Hein. Ça... après.
Jean-Bernard Puy, on est avec Dieu et c'est quand même...
Bah, un personnage haut placé.
Ouais, c'est une grande chance quand même qu'on soit avec lui.
Plus, oui. Dieu visite enfin Saint-Pierre de Rome. Dieu avait mis son habit blanc et vert, mais ne ressemblait qu'à un vieux camembert. Il allait en fanfare visiter le Vatican. Cherchant un cardinal dévoué et clinquant, l'entendit un serpent mugir dans un couloir. Mais c'était une lionne ou bien un léopard. Que faisaient ces félins dans cette cathédrale ? Continuant son chemin, tes pieds claquant les dalles, il trouva le serpent manié par un gros Suisse. Que faisait ce soldat avec cet appendice ? Oui, toi, Dieu qui pourtant connais tout et qui sait par avance que tu n'es pas tout fou, ne serais-tu présent partout en toutes choses ?
Oui, qu'ils nous répondent.
Ah oui. D'abord, même... je croyais qu'on avait du tofu après le camembert. Mais non, ah c'est tofu.
C'est tofu.
Ouais, je peux dire qu'il sait pas vraiment que tu n'es pas tofu. C'est pas mal. Hein.
Bon, on a deux très jolis poèmes, ouais. Exquis même.
Oui.
Et vous avez dicté un poème, c'est lequel de...
Mais qui ressemble beaucoup et qui, enfin, qui n'est pas supérieur au vôtre. C'est, oh, vous êtes parfaitement sur un pied d'égalité avec Jules Laforgue.
Ah,
donc,
oui.
Juste l'élément d'Ovid et de Trotsky, c'était l'exil, comme pour Jules Laforgue, le poète caché. Mais je ne vais même pas rappeler peut-être les instructions, tellement ils les ont suivies à la perfection.
Lisez-nous
juste le point. Ouais. Complainte de la lune en province.
Ah ben. Ah, c'était ça ?
Oui.
Oui, je le connais par cœur quasiment, allez-y.
Complainte de la lune en province. Ah, la belle pleine lune, grosse comme une fortune. La retraite sonne au loin, un passant, monsieur l'adjoint. Un clavecin joue en face, un chat traverse la place. La province qui s'endort, plaquant un dernier accord. Le piano clôt sa fenêtre, quelle heure peut-il bien être? Ça, c'est la question banale. Calme lune, quel exil, faut-il dire, ainsi soit-il?
Ah, on est quand même pas loin de Dieu avec ainsi soit-il.
Dans la Sixtine,
oui, et le serpent.
Un organisme mystique.
Piano, ouais. Piano à bretelles, René-Louis Lafont.
Il y a le piano, le camembert de la pleine lune. Hein? Oui. La lune blafarde, c'est exactement comme un camembert. Et en fait, il y avait le mot félin pour le chat, pour mon chat. Donc,
comme
tout
disait, il a tout du félin, fait l'autre. Bobby la pointe.
How should the moon ride out of the sky for you, baby? How be the pennies on your eyes for you, baby? I want to take you. Red rose ribbon for your hair. I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll shoot the moon for you. A vulture circles over your head for you, baby. I'll be the flowers after your death for you, baby. I want to build a nest in your head. I want to kiss you. I'll never be there. And I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. I'll shoot the moon for you.
Shoot the moon par Tom Waits. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, le jeu des suppositions. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et encore, le joli dimanche de Gérard Mordilla. Suppose que tu t'appelles, suis un nom et puis une histoire dont la chute sera une pirouette calembourgeoise sur le dit nom. Approximative peut-être, un peu comme une homophonie, et culturelle assurément. Pour ce jeu, Dominique Muller et Lucas Fournier. Dominique Muller, c'est à vous de jouer la première. À qui vous adressez-vous?
Eh bien, Lucas.
Oui.
Suppose que tu t'appelles Pain.
Pain.
Oui, Pain.
Comme le pain.
Comme Pain.
Oh, vous avez le choix de l'orthographe, en fait.
Non, P-I-N, quoi, Pain.
Oui, oui.
Oh, faut que je te raconte. L'autre jour, sur la scène, il y avait ce grand dadé qui a cette voix obscène. Tu lui cherches des poux, Pain aux sombres escogriffes.
C'est une poésie, en plus.
Oui. Mais oui, il a reconnu. Hein.
Bravo,
oui,
Pain.
Malin, malin.
Quand il chante, on dirait qu'avec sa craie, il griffe un tableau noir. Cri, cris. Normal qu'il soit jaloux de ton timbre angélique aux oreilles si doux. Malade, Saint-Laurent, que tu donnes le là. À ta place, il se voit soliste, l'échalas. Bref, tu n'étais pas là. Encore plus enroué que le jour où tu as, grinçant pire qu'un tramway, raté de chérubin le voy qui s'appétait. Dis, Pain, tu t'en souviens, ça a tout fait péter. Le public rigolait comme si c'était ta faute, ceux-là qui déraillaient à s'en tenir les côtes. C'est vrai que Monsieur Rock, notre chef, veut l'élite, mais c'est pas une raison pour que l'autre en profite. D'accord, tu es petit, et ce sournois immense. Il croit que sa hauteur de talent le dispense. L'absent a toujours tort. Fallait être là, Pain.
Oui, c'est très mignon. Et on peut la comprendre tous. Oui. Hein. Le lapin s'impose.
Vous l'avez bien posé. Hein.
Pour le pousser, ton là, celui que ce clampin prétendait nous donner de sa voix de crécelle, s'adressant à celui qui tire les ficelles. « Monsieur Rock, bêla-t-il, le chérubin, c'est moi. Pain, ce minus, ce nain, n'a qu'un filet de voix. L'écouter, ça fait mal, à chaque jour sa peine. » C'est qu'il moralisait, minable La Fontaine. Rien ne sert de tousser, il faut rester au lit. Quand on est Pain le nul, le ténor tout petit. C'est comme je te le dis, Pain, il te faut guérir. Vite, sa gueule de belette démolir. Tu vois cet échalas en mignon chérubin et ton jeu vocal Pain. Vocal
ah,
Pain.
Oui.
Ah, vocal Pain. Ah, ah, mais oui, oh là là. Ah, mais oui, ah, mais oui.
C'est pas la chute quand même.
C'est la chute, non?
Non, la chute sera bien meilleure, non?
J'espère. Et ton jeu vocal Pain, au chômage, sans turbin, à l'opéra, c'est toi qui ramènes les bis, avec ce haricot, c'est le fond des abysses. Tu l'aurais entendu, tu lui mettais un pain, quand l'échalas belette et le petit lapin.
Oh. Oh là là, le chat, la belette et le petit
eh
lapin,
ben oui.
Quand l'échalas
belette et le petit lapin.
Oh là là, elle est approximative, oh, magnifiquement.
Pas tant que ça. Pas tant que ça.
Non, non, c'est le qui devient un lait. Oui, vous aviez compris, Lucas, parce que ce discours s'adressait à vous.
Pas tout, le lapin, j'ai bien compris. Et le calepin.
Avant, finalement, hein,
il y avait des illusions, il y avait les chalas, il y avait La Fontaine, enfin bon.
Oui,
il y avait vraiment des indices.
Il y avait du monde.
Lucas Fournier, le jeu des suppositions, à qui vous adressez-vous?
Je vais m'adresser à Hervé.
Ah.
Oui. Suppose donc, Hervé, que tu t'appelles Émer.
Émer, oh, c'est Émer. Joli ça, Émer. Mmh, ouais. Ça lui va bien en plus.
Et donc, que tu t'embarques pour une très longue histoire, hein, Émer. Assieds-toi. C'est un vrai roman intitulé. 5 semaines en bateau. Oui. Chapitre 1. Le 12 mars 1876, un événement considérable se produisit à bord du Welbeck, la goélette scientifique de la Royal Society of Submarine Geology, qui croisait par 43 degrés de latitude nord. Le commandant de bord, Archibald Waterproof, était un rude marin qui emplissait toutes les conditions qui déterminent l'énergie humaine, activité d'esprit et de corps, impétuosité des désirs, puissance de la volonté.
C'est tout lui.
On n'est qu'au début du premier chapitre. Hein. Ouais. Quoique sa construction data de plus de 20 ans, data c'est un subjonctif, hein, Émer. Le Welbeck, qui jaugeait 500 tonneaux, était doté de tous les instruments scientifiques modernes pour l'observation du fond des océans. Mais ce qui survint ce matin-là, même les appareils les plus sophistiqués du professeur Cornelius Evans, le chef scientifique de l'expédition, lequel était absorbé depuis le départ de Portsmouth par l'étude de la réfraction du guano dans l'écume, même ces appareils-là ne l'eussent pu prévoir. Il n'y avait plus une goutte de rhum à bord, oui. Même la réserve personnelle du commandant Archibald Waterproof avait été vidée, et la tienne aussi, mon pauvre Émer, toi, le fidèle domestique français du professeur Evans. Pour calmer la fureur de l'équipage, le professeur prit alors la parole. « Messieurs, l'heure est grave. Nous ne boirons que de l'eau, mais ce sera pour la grandeur de la science. » Les matelots émus acclamèrent le professeur, c'est toujours comme ça dans Jules Verne, qui ajouta « Mes amis, si mes calculs sont exacts et si le vent est bon, nous devrions observer le phénomène le 22 août à 19h37 au large des côtes de Chiluk. » Chapitre 2.
Oula. Il y en a combien? Il y en a 25.
Oui. 24.
Alors, il faut, chapitre 2. Il faudrait, avant de poursuivre, rappeler aux lecteurs comment se sont formés les schistes bitumineux qui constituent la richesse de cette région de Schulich.
S'il vous plaît, oui.
Mais si tu le veux bien, Emer, nous passerons ce chapitre pour nous diriger vers le suivant.
Ah, dommage.
Oui. Même celui d'après. Bon, Emer, veux-tu le récit de l'attaque du calmar géant, le sauvetage du naufragé suisse et de sa charmante nièce Hilde?
Alors répondez quand même, Emer.
J'essaie de voir vers où on va, tout
simplement. Ah, c'est pas facile, hein.
Sans Rome. Bon, écoute, alors filons sans escale justement vers l'ultime chapitre de cette œuvre, chapitre 24. Le 22 août 1876, nous y voici enfin, Emer, tout était tranquille à Rome. À Rome. Tout était tranquille à bord, malgré l'absence de Rome. Soudain, le commandant Archibald Waterproof entendit un son inhabituel. Un homme chantait une chanson d'ivrogne. C'était toi, Emer, qui titubais sur le pont. « Qu'arrive-t-il à Emer, votre domestique ?» demanda le capitaine au professeur, on le dirait un peu éméché. Le professeur Evans prit solennellement la parole. « Messieurs, nous venons d'accomplir 43 196 miles en 163 jours, 14 heures et 23 minutes, et cela ne vous dit rien ?»« Bah, cela ne nous dit pas, » reprit le capitaine Waterproof, « pourquoi M. Emer se trouve ivre à bord alors que nous ne buvons que de l'eau depuis notre départ de Portsmouth. » « Eh bien voilà, messieurs, » rappela le professeur Evans, « 43 196 miles sont 80 000 kilomètres. Nous avons donc accompli 80 000 kilomètres, soit exactement 20 000 lieues. » « Et pour finir, » fit le capitaine, « et c'est bien là ma découverte, messieurs, dont vous serez pour l'histoire de la science et la gloire de la Royal Society of Submarine Geology les premiers témoins, 20 000 lieues, soul et mer. »
Oh. Et avouez que vous ne l'avez pas vu venir, parce que je vous regardais dans les yeux.
Il a ramé pour arriver là.
Il n'a pas ramé, il est en bateau.
Je ne savais pas du tout que 4 km, c'était...
On aurait appris quelque chose.
4 km égale une lieue.
Oui.
Oui.
Une lieue, oui.
C'est un chiffre rond. Un chiffre rond sous la... Oh là là, je suis une incomprise. Oh là là. Tu penses, Lucas?
Je pense que dimanche 30, on va célébrer à la Maison de la Radio les 30 ans des papous, avec tous les papous et tous les auditeurs. Et du coup, je me demande, qui apporte le gâteau?
Ben, c'est pas vous, Lucas, moi je croyais. En tout cas, gâteau ou pas, c'est la semaine prochaine, les 30 ans des papous dans la tête. Dimanche 30 novembre, en public, au studio 104 de la Maison de la Radio, en deux récrés. La récré du matin de 11h à 13h, la récré de l'après-midi de 15h à 17h, avec toute la bande des papous et vos jeux préférés, en prose, en rime ou en chanson. Tous les renseignements sur l'agenda de France Culture, à la page Vie du Club des Papous dans la tête et sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis. Entrée libre dans les limites des places disponibles, 850 places, à réserver sur le site maisondelaradio.fr. En minuscule, tout attaché, c'est facile, maisondelaradio.fr. Et vous êtes tous les bienvenus pour fêter nos 30 ans. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? L'art de la périphrase qui dit si joliment le sens d'un mot, mais avec des grâces, des contours, des détours que le mot n'a pas. Seulement, qu'en est-il du sens quand on en abuse de la périphrase ? Prenez une jolie petite phrase bien claire, bien tranquille. Confiez-la à tour de rôle à trois périphraseurs, Dominique Muller, Hervé Letellier et Jacques Vallée, qui transformeront chacun trois substantifs en périphrase de leur crue. Alors évidemment, à force d'introduire toute leur périphrase dans la phrase en jeu, celle-ci deviendra un récit d'une page au moins. Aura-t-il le même sens ce récit que la phrase de départ ? À découvrir avec le décodage de Jacques Jouet. Nous n'en sommes pas là. Dominique, vous voulez bien nous lire la phrase que je vous ai offerte pour jouer ?
Une porte lui envoya au passage une odeur de tiède lessive, une autre un parfum fade. Il comprit la rue.
Voilà, les portes qui envoient. C'est clair, non, Jacques Jouet ?
Mais c'est assez clair, oui.
Alors, entre vous et cette phrase, il y a Dominique Muller, Hervé Le Tellier, Jacques Vallée. Je vous dirai après de qui est cette phrase, mais il y a eu des perditions ou pas ?
Pas tellement.
Ah bon ? C'est tout à fait étonnant, ça.
Si on retrouve les deux parfums, les deux odeurs contrastées.
Une porte lui envoya au passage une odeur de tiède lessive, une autre un parfum fade, y compris la rue. C'est de qui, vous croyez, Dominique Muller ?
Peut-être Aragon.
Non, mais c'est pas bête, hein.
Qui je vous l'avais dit, je vous l'avais dit.
C'est de Henri-Pierre Rocher dans Don Juan. Vous savez, cette série d'histoires d'amour qui arrive à Don Juan, justement. Vous ne connaissez pas. C'est du Henri-Pierre Rocher. Excellent, très beau, très poétique, non, Dominique Miller.
Et puis ça ouvre plein de possibilités. Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir.
Alors, qu'est-ce que vous choisissez ?
J'ai choisi la porte.
Oui ?
Une porte. La porte, c'est un entre-deux voyage, fort intérieur tiraillé ici vers le cocon confiné, là-bas vers l'horizon sans limite des explorateurs. En gros, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
Ou fermée, voilà. Oui, oui, oui.
Oui, ça ne facilitait pas les choses.
Oui. Non, même, c'est vrai. Elle a pris la porte et elle en a fait un.
Il y a vraiment des doubles rideaux. Là,
quelque chose de personnel.
Oui, l'entre-deux voyages est resté d'une façon...
C'est pas facile de faire bouger entre-deux voyages.
Entre-deux voyages, c'est...
Mais pourquoi voulez-vous le faire bouger ? C'est très bien.
Très bien.
Non ?
C'est formidable.
Oui. Ensuite ?
La lessive.
Évidemment.
Purification baptismale que les mains de femmes jadis étreignaient au rythme d'un chant patriotique. C'est du savon de Marseille.
Ah, ça c'est, mais vous l'avez précisé le dans le texte. Non, pas vraiment.
C'est le chant patriotique.
Ah, très important, l'arrivée du chant patriotique.
Ah oui, non, c'est les femmes à la lessive. Enfin, vous
qui
voyez,
battent le linge.
Qui battent, exactement. Ah bon. Vous voyez la scène.
Mais voilà. Absolument, voilà, j'y suis, moi.
En chantant la Marseillaise, donc. Et la rue. Oui. Frénésie des vibrions tragiques en quête de sens.
C'est pas gay, hein.
C'est la rue, hein.
C'est la rue, la rue n'est jamais très gay, mais enfin...
Elle marche dans deux sens, on sait jamais très bien où on va, les gens se dépêchent.
Mais ça dépend comment on la prend, la rue.
Il y a côté vibrionnant.
Oui. Bon, moi j'écouterais volontiers ce que ça donne quand on insère vos périphrases dans la phrase d'Henri-Pierre Rocher.
Un entre-deux voyages, fort intérieur tiraillé ici vers le cocon confiné, là-bas vers l'horizon sans limite des explorateurs, lui envoya au passage une odeur de tiède purification baptismale que les mains de femmes jadis étreignaient au rythme d'un chant patriotique. Une autre, un parfum fade. Il comprit la frénésie des vibrions tragiques en quête de sens.
Bon, je trouve que ça va assez bien avec le personnage de Don Juan de Henri-Pierre Rocher dont il est question dans son livre.
Hein. Oui, d'ailleurs, c'est un vibrion tragique, Don Juan.
Oui, je rappelle la phrase quand même. Hein. Oui. Une porte lui envoya au passage une odeur de tiède lessive, une autre un parfum fade, y compris la rue. Hervé Le Tellier, le sens est passé pour vous à travers le texte de Dominique puisque vous ne connaissiez pas la phrase d'Henri-Pierre Rocher.
Oui. Il est un peu passé, c'est pas très grave pour moi, parce que de toute façon, mon rôle consiste à complexifier. Donc, si vous voulez, je ne me suis pas tout à fait préoccupé du sens. Je
ni de vos camarades, Jacques Vallée, Jacques
au contraire, quand même. Au contraire, j'ai beaucoup pensé à eux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour altérer un petit peu ce sens d'une évidence totale. Mais en fait, j'ai finalement été très gentil.
Ah bon, alors, ça donne.
Cocon.
Oui.
Endroit dont il faut sortir seul sous peine de mort.
Oui. Oui, sortir de son petit cocon.
On en sort seul. Si on est aidé, on meurt plus tard.
Ah, je ne savais
pas. Les papillons, il ne faut pas les aider à sortir des cocons.
Ah, jamais les toucher. Ils auront appris quelque chose.
Voilà.
Ah oui.
Car ils ont besoin de l'énergie pour sortir du cocon, pour développer leurs
ailes.
C'est
leur voyage initiatique, justement.
Ah, ouais. Très bien.
Voilà. Comme les adolescents, finalement.
C'est exactement pareil.
Et oui, on en revient à la porte, je vous ferai remarquer.
Voilà. Si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ton enfant, il n'y arrivera rien.
Et laisse-le partir.
Laisse-le partir.
Ouvre-lui la porte.
Voilà. Mmh. Horizon.
Oui.
Parabole de l'inaccessible netteté pour les myopes.
Oui, évidemment.
Ah, je peux en témoigner. Oui. Personnellement, je n'ai jamais vu l'horizon de ma vie. Donc, on m'a dit qu'il existait, je veux bien le croire.
Ah d'accord, tout s'explique.
Voilà. Main.
Main,
oui. Main. Métonymie toulousaine de la beauté féminine. Car c'est beau les mains d'une femme dans la farine.
Oh, mais là, c'était la lessive. Enfin,
oui, il ne pouvait pas le savoir.
Non, la lessive ayant disparu, si
vous voulez. Ah oui, il ne pouvait pas le deviner.
Métonymie toulousaine. Ah oui, vous avez vu arriver Toulouse, Jacques Vallée, Jacques Jouet, vous avez compris.
Sud, comme Toulouse.
Non. Alors, ça devient quoi, le joli texte de Dominique Muller?
Ça devient un texte magnifique, je crois. C'est parti de très haut. On passe à l'étage au-dessus. Un entre-deux voyage, fort intérieur, tiraillé ici, vers l'endroit confiné dont il faut sortir seul, sous peine de mort. Là-bas, vers la parabole de l'inaccessible netteté pour le myope sans limite des explorateurs. Lui envoya au passage, il y a un verbe, une odeur de tiède purification baptismale, que les métonymies toulousaines de la beauté féminine de la femme, jadis étreignaient au rythme d'un chant patriotique. Une autre, un parfum fade.
Ça,
c'est un peu rude. Oui. Bon. Et puis, bien sûr, il comprit la frénésie des vibrions tragiques en quête de sens.
C'est pas un peu bizarre, la beauté féminine de la femme?
Si, c'est beau. Moi, je trouve ça insistant. Oui.
Parce que la beauté masculine, on en parle beaucoup trop. Alors que la beauté féminine, de temps en temps...
Il y a une beauté féminine des hommes aussi. Oui. Donc la beauté féminine de la femme, c'est ce qui est spécifique à la femme chez la femme.
C'est vrai, on dit plutôt la part féminine chez un homme. Mais enfin, la beauté féminine de la femme,
mais
après
c'est
tout.
Vachement intéressant, la part féminine chez une femme.
Bon, il y avait un peu de verbe, enfin, il y en avait un, il me semble.
Il n'y avait pas tant que ça.
Il n'y avait pas tant que ça. Ça a fait difficulté à la fin pour vous, Jacques Jouet.
Mais ça fait une belle phrase nominale au début. C'est
Bon, Jacques Vallée, vous avez reçu cette phrase longue d'Hervé Le Tellier qui provenait, Dominique Muller, d'un début de Henri-Pierre Rocher. On peut le réécouter, s'il vous plaît.
Une porte lui envoya au passage une odeur de tiède lessive, une autre un parfum fade. Il comprit la rue.
Alors évidemment, la femme est apparue par le biais de la lessive. C'est un peu réducteur, mais enfin, la beauté féminine de la femme. Alors, les mains dans la farine d'Hervé Le Tellier, on a
les mains dans la lessive.
Et tout ça, ça mène à la femme.
Bon. Moi, ça m'a un peu gêné, la beauté féminine de la femme. Donc j'ai remanié un peu tout ça.
Ah bon?
C'est pas le premier mot que j'ai changé, c'est mort.
Ah.
Je l'ai changé par quelque chose de poétique pour rester un peu dans le ton, pour essayer de trouver quand même équilibrer ce texte. Et donc, mort, je l'ai remplacé par partir, dormir, rêver peut-être, rien de plus.
Ah oui, mais vous faites apparaître Shakespeare quand même.
Ben oui, ça donne tout de suite une dimension à l'entre-deux voyages.
Profonde, oui.
Et puis, la beauté féminine, donc j'ai pris l'ensemble de beauté féminine.
Oui.
Et je l'ai remplacé, comme il y avait un peu la campagne toulousaine avant, la beauté féminine, un paysage vallonné ensoleillé que l'on ne se lasse jamais de visiter.
Oh, bon, c'est mignon ça, pour la femme, pour la beauté féminine, oui, un paysage vallonné,
ensoleillé que l'on ne se lasse jamais de visiter. Et puis, à la fin, je suis tombé sur le parfum. Et je l'ai remplacé par une émanation olfactive de fleurs, plus ou moins agressive, plus ou moins fade, dans le cas puisqu'il y avait des parfums fades.
Bon, alors comme ça, on ne voit pas trop ce que ça va donner, mais justement, on va vous écouter pour comprendre.
Un entre-deux voyages, fort intérieur, tiraillé ici vers l'endroit confiné dont il faut sortir seul, sous peine de partir, dormir, rêver peut-être, rien de plus, là-bas vers la parabole de l'inaccessible netteté pour le myope sans limite des explorateurs. Il lui envoya au passage une odeur de tiède purification baptismale que les métonymies toulousaines, d'un paysage vallonné, ensoleillé, que l'on ne se lasse jamais de visiter, que des femmes jadis étreignaient au rythme d'un chant patriotique ou une autre, d'une émanation olfactive de fleurs, plus ou moins agressive, plus ou moins fade, y compris la frénésie des vibrions tragiques en quête de sens.
C'est bien de ne pas avoir touché à la fin.
Y compris la rue est toujours là.
Il comprend la rue, c'est là. Et puis on comprend que c'est compliqué la rue. Hein.
Puis surtout qu'on est en quête de sens.
Mais oui, oui. Mais oui. Alors ce roman fleuve, si je puis dire, cette recherche phénoménale part d'une phrase d'Henri-Pierre Rocher, trouvée dans Don Juan. Une porte lui envoya au passage une odeur de tiède lessive, une autre un parfum fade. Il comprit la rue. Alors, je ne sais pas si vous, Jacques Jouet, vous avez compris la rue à partir du texte de Jacques Vallée, mais vous avez fait un travail de décodage
J'étais effrayé. Dans un premier temps, j'étais effrayé par ce texte.
Non, je comprends, oui.
Et puis, je suis tombé à la 8e lecture sur l'énoncé « il compris ». Je me suis dit, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Il doit y avoir quelque chose.
Alors, comment procédez-vous ?
Ça commence par un entre-deux voyages. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être qu'un entre-deux voyages ?
Eh bien, une porte.
Et je me suis avisé que vous avez le développement de cet entre-deux voyages en deux parties. Ça commence par fort intérieur tiraillé ici vers l'endroit confiné dont il faut sortir seul, sous peine de partir, dormir, rêver peut-être, rien de plus. Donc on est du côté d'un voyage intérieur, intime. À ce moment-là, ça se renverse, là-bas, vers la parabole de l'inaccessible netteté pour le myope sans limite des explorateurs. Je passe sur le myope sans limite des explorateurs, je ne sais pas ce que c'est. Mais enfin, je tombe sur, un voyage extérieur, un voyage très... Voilà, on a fait de l'introspection, et puis là, on peut se lancer après.
Vers l'horizon.
Il faut que je trouve un énoncé en deux mots qui va être une sorte d'oxymore du voyage. Et à ce moment-là, je propose introspection touristique. C'est vraiment les deux extrêmes.
Ah oui.
Le tourisme, c'est le contraire de l'introspection. Alors ensuite, il y a des événements. Là, on a un début comme ça sur une réflexion sur le voyage. Puis ensuite, il commence à y avoir des événements et des personnages. Une odeur de tiède purification baptismale que les métonymies toulousaines d'un paysage vallonné, ensoleillé, que l'on ne se lasse jamais de visiter. Alors, Toulouse.
Oui. La ville rose.
Rose.
Oui.
Rose.
Rose.
Bon, donc c'est l'eau de rose. La matière qui est rencontrée par le texte, c'est l'eau de rose.
Ah oui ?
Oui. Ce léger parfum.
Parfum tiède, oui. Bon.
Donc on était à Toulouse.
Oui.
Et ensuite, on a le chant patriotique. Donc on saute à Marseille.
Ah voilà.
Et
bien sûr. Hein. Par le canal du Midi, l'eau de rose va parfumer la Marseillaise.
Il est éblouissant. Hein.
Ah oui.
Je ne sais pas où il va, mais enfin, pour le moment, le parcours est intéressant.
De même qu'on avait tout à l'heure deux types de voyages, le voyage intérieur et le voyage extérieur. Là, on a l'eau de rose qui est une bonne odeur, qui est la bonne odeur. Et puis, ça va se gâter un peu du côté olfactif. Et où une ombre d'une émanation olfactive de fleurs, plus ou moins agressive, plus ou moins forte. Là, ça se gâte un petit peu. Ça pue.
Ah, carrément, oui.
Et il comprit la frénésie des vibrions tragiques en quête de sens. On est au théâtre.
Ah, oui.
Comment s'appelle le grand théâtre à Marseille ?
La Criée.
Évidemment. Mais la Criée, c'était quoi au départ ? C'était le poisson, c'était l'odeur du poisson.
Oui, oui. Ça pue.
Ça pue. Ça peut.
Et donc, ça donne quoi ?
Pas forcément, oui.
Vous arrivez à quelle phrase ?
J'arrive à une phrase très simple, qui est une impression de voyage, introspection touristique. L'eau de rose parfume la Marseillaise ou l'empuantie à la criée.
Bah écoutez, et c'est signé ?
Et c'est Maupassant que dans les chroniques de voyage quand il va en Provence.
Ah oui, sur l'eau.
Sur l'eau, qui a ce texte sur Marseille.
Bah, c'est quand même curieux que vous ayez retrouvé le théâtre parce que la phrase au départ de Henri-Pierre Rocher est extraite de Don Juan.
Moi, je ne dirais pas c'est curieux.
Non, vous diriez, il y a du travail, il y a du boulot.
Ça ne s'est pas fait tout seul. Vous
donc,
savez.
Cette phrase, c'était une porte lui envoya au passage une odeur de tiède lessive, une autre un parfum fade, il comprit la rue. Et pour vous, donc ?
Introspection touristique, l'eau de rose parfume la Marseillaise ou l'empuantite à la criée.
Patrice Minet, vous n'étiez pas dans ce jeu.
Et je regrette de ne pas y avoir été. Parce que moi, j'aurais fait quelque chose de tout à fait différent.
Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène.
Vanessa Paradis et M, la scène. On se quitte comme on s'est retrouvés à 12h45 avec un joli dimanche, le dimanche, jour dédié aux papous et aux jeux. Le joli dimanche, proposé par Gérard Mordilla. Et qu'est-ce qu'il a choisi de nous raconter, Gérard ?
C'est le dimanche de Samuel Beckett avec, dans le rôle d'Estragon, Jean-Bernard Puy.
Waouh !
C'est moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
On attend.
Pourquoi on attend ?
Ça fait passer le temps.
Ah, il serait passé sans ça ?
Oui, mais moins vite.
Je ne sais pas.
Allons-nous-en ?
Mais on ne peut pas.
Pourquoi ?
On attend.
Encore ?
On attend dimanche.
Ah oui, c'est vrai.
Je crois qu'on va attendre jusqu'à demain.
Dimanche ?
Oui, il n'y a qu'à attendre là.
Dimanche, c'est demain ?
Non, c'est aujourd'hui.
Et demain ?
Demain aussi.
Demain, ce sera aussi dimanche ?
Oui. C'est moche, hein?
C'est moche d'attendre.
Et si on attendait Godot pour changer?
Inutile, il ne viendra pas.
T'es sûr?
Ah oui, sûr.
Il ne vient pas?
Jamais le dimanche.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. À retrouver sur franceculture.fr pour le podcast pendant un an. La réécoute pendant 1000 jours. Et n'oubliez pas notre rendez-vous si vous êtes à Paris dimanche prochain, 30 novembre. Vous nous retrouvez à la Maison de la Radio pour fêter en public les 30 ans des Papous. Tous les renseignements sur l'agenda de France Culture, à la page vie du Club des Papous et sur notre page Facebook. Et pour réserver, direction le site maisondelaradio.fr. Voilà, au revoir, passez un très bon dimanche à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, c'est Antoine Perrault pour Tire ta langue. Je...